Voici une question qui est peut-être votre question. Est-ce que Dieu connaît tous les détails de notre vie? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui en fera réfléchir plusieurs, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je remercie le Seigneur pour tout ce bon enseignement qu'on reçoit jour après jour à cette émission. C'est tellement bon d'apprendre à mieux connaître notre Dieu, et afin de savoir ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît, de savoir ce qu'il attend de nous. Alors voici les questions qu'on va lui poser aujourd'hui. Est-ce que c'est normal de se poser des questions quand on marche avec Dieu? Est-ce que c'est vrai que Jésus est le seul à gouverner avec justice? Est-ce que Dieu connaît tous les détails de notre vie? Qu'est-ce qui se produit quand on viole un serment fait à Dieu? Est-ce qu'il y a toujours eu des ambassadeurs de Dieu dans le monde? Y a-t-il quelqu'un qui puisse mettre la main sur les témoins de Dieu avant qu'ils n'aient fini leur mission? Est-ce qu'il est important de lire la Bible? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à partager de belles choses avec nous pour notre instruction. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs afin de bien comprendre ce qu'il va nous enseigner. Prions. Ô Seigneur Dieu, on te demande, par ton Esprit Saint, que tu disposes nos cœurs à vraiment écouter. Écouter ce que tu vas nous enseigner et à le retenir, Seigneur, parce qu'on veut mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Tu nous as créés pour ta gloire. On veut être obéissants à ta parole merveilleuse. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous nous sommes demandé comment Dieu pouvait aimer des êtres comme nous. En fait, il n'y a rien de bon en nous pour que Dieu nous aime. C'est donc en Dieu que nous trouvons la réponse. Dieu est amour et la cause de son amour pour nous est l'amour divin lui-même. L'amour de Dieu pour nous n'a aucune cause extérieure à lui. Dieu est le berger de son peuple et il n'abandonne jamais ses brebis. Après la captivité, il ramènera son peuple dans le pays et il fera une nouvelle alliance avec eux. Il donnera aussi un cœur nouveau. Les lois de Dieu seront inscrites dans leur cœur plutôt que sur la pierre. De plus, cette alliance sera éternelle. Comme Jérémie l'a fait, si nous avons un doute, allons à Dieu dans la prière. Jérémie a obéi à Dieu qui lui a demandé d'acheter le champ, mais il lui a demandé pourquoi il désirait dans la prière. Dieu lui a répondu, « Comme Jérémie, faisons part de nos sentiments à Dieu. Cela fait partie d'une relation personnelle et intime avec lui. » Au chapitre 33, Dieu confirme son alliance avec David. Un jour, il ramènera le peuple en Israël et il rétablira la relation entre le peuple et lui. Chers amis, débutons notre lecture de Jérémie chapitre 33, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Jérémie est toujours en prison. Versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Celui qui marche avec Dieu se pose des questions. Ce dernier verset est souvent cité lors de réunions au cours desquelles les gens donnent des témoignages. Ce verset est merveilleux, mais pour en apprécier toute la saveur, il faut l'examiner dans le contexte de ce chapitre. Bien qu'il soit en prison et bien que Jérusalem soit assiégée, Dieu demande à Jérémie d'acheter une terre. Par la foi, Jérémie a obéi, mais il se pose tout de même des questions. Pourquoi Dieu permet-il que Juda aille en captivité? En fait, je pense que c'est une démonstration de grande foi lorsqu'un croyant passe par une période de doute. Je m'explique. Mes amis, si vous marchez avec Dieu et que vous êtes en communion avec lui, vous découvrirez qu'il est merveilleux et qu'il fait des choses merveilleuses au point que, parfois, vous ne comprendrez pas ce qu'il fait. Alors, nous lui demanderons « Pourquoi fais-tu cela ?» Vous arrive-t-il de sentir le besoin de lui poser cette question? J. Vernon McGee racontait cette expérience. « Je me souviens le soir où je suis allé à l'hôpital pour voir mon épouse et notre bébé nouveau-né. En arrivant, l'infirmière m'a dit que le médecin voulait me parler. Le médecin m'a annoncé que l'enfant était mort, mais que mon épouse ne le savait pas encore. J'ai été le lui annoncer et j'ai pleuré avec elle. Ensuite, je suis sorti sur la terrasse de l'hôpital et j'ai regardé le ciel étoilé. J'ai posé une question très simple. Pourquoi? Pourquoi? Plusieurs années plus tard, je pose encore la question à Dieu. Au cours des années, j'ai appris à mettre ma main dans la sienne et à le laisser me guider à travers la noirceur. Je lui ai souvent parlé de mes doutes, mais en lui affirmant que je lui faisais confiance. Je suis heureux que Jérémie ait été ce type d'homme. D'autres personnages bibliques ont aussi questionné Dieu. Le prophète Habacuc se posait beaucoup de questions, et son livre est la réponse de Dieu à une de ses grandes questions. Jonas aussi a posé des questions à Dieu. Mes amis, ces questions ne sont pas le symptôme d'une foi faible. Par contre, prétendre accepter la voix de Dieu et de s'y soumettre tout en retenant nos questions dans notre fort intérieur est de l'hypocrisie. Je crois que Dieu veut, avant toute chose, que nous soyons entièrement honnêtes avec lui. Il nous a donné cette promesse. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu va maintenant confirmer l'alliance qu'il a faite avec David dans 2 Samuel chapitre 7. Il a promis à David qu'un de ses descendants siégerait sur le trône d'Israël pour l'éternité. Tous les prophètes ont répété et confirmé ce message. Jérémie 33, les versets 14 et 15. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Seul Jésus gouverne avec justice. Les jours réfèrent aux jours du Seigneur. Je ferai éclore à David un germe de justice. Le seul germe de justice, la seule descendance juste qui est issue de David, est la personne qui est née à Bethléem, soit Jésus. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Nous n'avons pas encore eu de chefs d'État qui ont gouverné ainsi. Seul le Seigneur Jésus est capable de régner avec justice, et c'est ainsi qu'il en sera dans son royaume. Verset 16. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Jésus a été fait justice pour nous. Si vous et moi avons une justice, c'est parce que la justice de Jésus-Christ a été portée sur notre compte. Il est notre justice. Dieu pourvoit tout ce dont nous avons besoin pour notre salut. Et nous n'avons pas de justice propre à nous. Il nous donne la sienne. Verset 17. Car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Où se trouve cet homme présentement? Aucun Israélite ne peut légitimement réclamer le trône de David. Celui qui peut le faire est présentement assis à la droite de Dieu, comme l'a expliqué David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le psaume 110, verset 1. Dieu rassemble présentement son Église et il prépare le jour où le Fils occupera le trône et règnera ouvertement. Jérémie 33, les versets 19 à 22. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs, qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. » Au moment où cette prophétie a été proclamée, Sédécias siégeait sur le trône de Juda. Il était un roi très corrompu. Nébuchadnezzar crèvera ses yeux et l'emmènera en captivité. Vous penseriez que cela éteindrait la descendance de David. Ceci mettrait fin à la lignée royale de nombreuses nations. Il n'y a personne pour réclamer le trône du roi de Babylone aujourd'hui. Il n'y a personne pour réclamer le trône d'Alexandre le Grand, et aucun pharaon ne règne sur l'Égypte. Cependant, il y a un descendant de David qui peut réclamer son trône. Dieu dit qu'il l'établira sur le trône de l'univers un jour. C'est une grande prophétie qui s'accomplira en son temps. Dieu sait tout. Lisons Jérémie 34, versets 1 à 5. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, lorsque Nébuchadnezzar, roi de Babylone, avec toute son armée et tous les royaumes des pays sous sa domination et tous les peuples, faisait la guerre à Jérusalem et à toutes les villes qui en dépendaient. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va, et dis à Sédécias, roi de Juda, dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la brûlera par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas à ses mains, mais tu seras pris, livré entre ses mains. Tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, et il te parlera face à face, et tu iras à Babylone. Seulement, écoute la parole de l'Éternel. Sédécias, roi de Juda. Ainsi parle l'Éternel sur toi, tu ne mourras point par l'épée. Tu mourras en paix, et, comme on a brûlé des parfums pour tes pères, les anciens rois qui t'ont précédé, ainsi on en brûlera pour toi, et l'on te pleurera en disant « Hélas, Seigneur !» Car j'ai prononcé cette parole, dit l'Éternel. Notez comment Dieu connaît tous les détails en ce qui nous concerne. Il sait exactement ce qui arrivera à Sédécias, versets 8 et 9. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté, afin que chacun renvoie libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tienne plus dans la servitude le juif, son frère. Sédécias a fait un pacte avec le peuple afin que tous les esclaves et les servantes soient libérés. Passons aux versets 15 et 16. Vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté, chacun pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi, dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenu en arrière, et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. Ne profanons pas le nom de Dieu en violant un serment. Ce pacte était droit et juste aux yeux de l'Éternel. Cependant, Sédécias n'a pas respecté sa parole. En faisant cela, Sédécias et le peuple a profané le nom de Dieu. En libérant les esclaves, Sédécias aurait pu proclamer au monde qu'il était différent parce qu'il servait le vrai Dieu vivant. Sédécias ne faisait pas confiance à Dieu et il est revenu sur sa parole. Il a terni sa réputation et il a profané le nom de Dieu. Le monde regarde les enfants de Dieu vivre. Ceux qui affirment appartenir à Dieu font plus de mal à son nom et à l'avancement du royaume que les non-convertis qui rejettent la parole de Dieu. Ceux qui se disent croyants et qui déshonorent Dieu par leur marche quotidienne rendront des comptes à Dieu. Verset 19 à 21. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécias, roi de Juda et ses chefs, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone, qui s'est éloigné de vous, qui ont passé entre les morceaux du veau. C'est ainsi que l'on scellait une entente à cette époque. Un sacrifice était apporté et on coupait l'animal en deux. Ensuite, les deux parties de l'entente se prenaient par la main et passaient entre les deux moitiés de l'animal. Dieu a fait cela lorsqu'Abraham lui a demandé de confirmer son alliance. Voir Genèse chapitre 15. Aujourd'hui, nous passerions devant un notaire pour signer un contrat. Dieu condamne Sédécias et le peuple parce qu'ils ont violé l'entente qu'ils ont signée. Dieu a toujours eu ses ambassadeurs dans le monde. Au chapitre 35, nous faisons la connaissance des Récabites, une famille qui fait partie du reste qui craint encore Dieu. Leur conduite les distingue du reste de la nation. Dieu nous parle des Récabites afin que nous sachions qu'ils conservent toujours un reste de croyants, qu'ils ne laissent jamais le monde sans témoin pour lui servir d'ambassadeur. Pendant l'époque la plus sombre de l'histoire, la grande tribulation, alors que 144 000 Juifs seront forcés d'aller dans la clandestinité, deux témoins se lèveront et parleront pour Dieu. Pendant les périodes où Dieu accorde plus de liberté à Satan, il a toujours des témoins qui parlent pour lui. Personne ne peut mettre la main sur les témoins de Dieu tant qu'ils n'ont pas accompli leur mission. Jérémie, chapitre 35, versets 1 et 2. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Dieu demande à Jérémie d'offrir du vin aux Récabites. Versets 5 et 6. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, « Nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. » Les Récabites déclinent l'invitation à boire parce qu'un de leurs ancêtres leur a interdit de boire du vin. Versets 13 à 15. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, « Ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire que chacun revienne de sa mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Les Récabites sont un exemple pour le peuple. Ils refusent de désobéir à leur père. C'est une condamnation pour Juda qui refuse d'obéir à son Père céleste. Dans le reste du chapitre, Jérémie prononce un jugement sur Juda et annonce des bénédictions pour les Récabites. Le chapitre 36 révèle l'attitude du roi Joachim envers la parole de Dieu et les messages de Jérémie. lisons Jérémie 36, versets 1 et 2. La quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre, et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda, et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. Dieu a parlé à Jérémie, et celui-ci a dicté le message à Baruch, son secrétaire. Baruch a pris le rouleau et l'a apporté au temple pour le lire en présence de tous. Les chefs du peuple ont entendu parler de cela, et ils ont demandé à Baruch de leur lire le message que Dieu a donné à Jérémie. Versets 19 à 23. Les chefs dirent à Baruch, « Va, cache-toi ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. » Ils allèrent ensuite vers leur roi dans la cour, laissant le livre dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Jéhudi pour prendre le livre. Jéhudi le prit dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au neuvième mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu trois ou quatre feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Chers amis, lisez-vous la Bible? Nous voyons le mépris de Joachim pour la parole de Dieu. Il rejetait entièrement la parole de Dieu. On nous dit que la Bible est le livre le plus vendu au monde. Cela ne m'impressionne pas. J'aimerais savoir combien de personnes lisent la Bible. Ne pas connaître la parole de Dieu n'est pas mieux que la jeter au feu comme l'a fait Joachim. Verset 24. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Les chefs ne se sont pas repentis en entendant la parole de Dieu. Ils n'éprouvaient même pas de remords. Cependant, le geste de Joachim n'empêchera pas la parole d'être proclamée. Verset 28. Prends de nouveau un autre livre et tu écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Dieu a demandé à Jérémie de réécrire les paroles du premier livre dans un autre livre. Nous terminons notre lecture en lisant Jérémie chapitre 36, verset 30. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Cela s'est accompli fidèlement. Joachim n'a pas eu de descendants qui l'ont suivi sur le trône, et le Seigneur Jésus ne descend pas de sa lignée. Marie est une descendante de Nathan, un autre fils de David, et Jésus est issu de cette lignée. Aucun descendant de Joachim ne montera jamais sur un trône d'Israël. Chers amis, j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous des Récabites que Dieu bénirait s'il revenait aujourd'hui? C'est-à-dire, votre vie transformée honore-t-elle Dieu? Demandez à Dieu de vous donner un cœur qui l'aime. Et mettez en priorité le fait d'être en relation intime avec lui, votre grande priorité. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre vous, que vous placiez Dieu en priorité dans votre vie. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le prophète Jérémie, les chapitres 37 à 39. Bonne lecture.
Merci, Régin. Tu nous as rappelé que le monde regarde les enfants de Dieu vivre. Et tu as dit que ceux qui affirment appartenir à Dieu font parfois plus de mal à son nom et à l'avancement du royaume que les non-convertis qui rejettent la parole de Dieu. Et tu as ajouté que ceux qui se disent croyants et qui déshonorent Dieu par leur marche quotidienne rendront des comptes à Dieu. Mes frères, mes sœurs en Jésus-Christ, quelle belle mise en garde pour nous. J'ai connu des soi-disant chrétiens qui criaient sur tous les toits qu'ils étaient des enfants de Dieu et qui annonçaient la bonne nouvelle du salut aux gens, mais qui ne mettaient pas en pratique la parole de Dieu. Par exemple, certains d'entre eux se vengeaient si un voisin leur faisait du mal. D'autres ne déclaraient pas tout leur revenu quand venait le temps de faire les impôts. D'autres vivaient dans le désordre, dans la chicane. Et tout cela a éloigné les gens plutôt que de les approcher de Dieu. Mais heureusement, je pourrais vous donner des témoignages de plusieurs vrais chrétiens qui sont intègres, qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui marchent dans l'amour, premièrement envers Dieu et aussi envers tous ceux qui les entourent. Ils ont compris le message de Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, des versets 37 à 39. Permettez-moi de vous le lire. Vous aimeriez peut-être prendre votre Bible et le lire avec moi. C'est bien dans Matthieu 22, 37 à 39. Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mes amis, les croyants qui agissent ainsi savent attirer les gens, non seulement à eux-mêmes, mais encore plus au Seigneur Jésus. Et ensuite, les gens sont disposés à entendre la bonne nouvelle. Et toi, mon ami, est-ce que tu connais la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Crois-tu en Jésus? Crois-tu qu'il est le Fils de Dieu? Crois-tu qu'il est Dieu lui-même et qu'il a pris un corps de chair comme le nôtre dans le but de venir payer la dette de nos péchés à notre place? Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour recevoir notre condamnation sur lui? Crois-tu qu'il est ressuscité des morts le troisième jour? Eh bien, mon ami, en ce moment même, Jésus, qui est vivant et qui est assis à la droite de son Père au ciel, oui, ce Jésus d'amour t'offre un cadeau extraordinaire. Il t'offre le pardon de tes péchés et l'assurance que le jour où tu vas mourir, tu iras tout droit au ciel. Il t'offre le don gratuit de la vie éternelle. Alors, mon ami, je t'encourage à ne pas attendre à demain. C'est aujourd'hui le jour du salut. Reconnais tout simplement que tu es un pécheur, une pécheresse. Demande pardon à Dieu. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Repens-toi, détourne-toi de tout ce que tu reconnais comme étant péché dans ta vie et tourne tes regards vers Jésus. Il veut t'accueillir dans ses grands bras d'amour. Il veut t'amener avec lui au ciel. Imagine-toi être au ciel pour l'éternité.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.